France Inter.
Quand on écrit l'histoire, il faut avoir le courage de dire la vérité.
Ça, c'est la pochette dans laquelle il y a les photocopies du fameux livre, voilà, secret. Avec, ah ouais, les annotations là, à la plume dans la marge.
Mon ancêtre raconte que, à la deuxième vague de massacre, on lui a demandé de faire un choix.
Ah, et là, il a annoté quasiment toute la page. C'est à propos des combats.
C'est un choix difficile, mais ça reste un choix. Il y en a qui se sont fait jeter à la mer. Il y avait le choix de mourir.
Ils étaient 150, hein, sur un radeau qui faisait à peu près 20 mètres sur 7.
Ouais.
C'était essentiellement des soldats, des matelots et quelques officiers.
Oui, c'est ça. Il y avait 120 soldats et après, il y avait des officiers, des notables. La première nuit d'énormes tempêtes. Donc, il y a eu déjà beaucoup de morts avec la première tempête. Donc, Coréard et Savigny racontent que la deuxième nuit, les soldats se sont emparés d'une barrique de vin et se sont enivrés. Et ont décidé de rompre les amarres du radeau. Enfin, une violence s'en est suivie. Le groupe des officiers a réprimé la révolte et donc a tué. Et donc, ce qu'ils racontent, c'est qu'ils ont restauré l'ordre sur le radeau. Voilà. Ça a été la version officielle. Et mon ancêtre fait plein d'annotations pour expliquer qu'en fait, depuis le début, il y a un petit groupe qui s'est formé au centre du radeau, qui a décidé, depuis le début, d'alléger le radeau pour que le radeau puisse flotter, tout simplement, et de faire qu'il y ait plus de rations pour ceux qui restent. Et donc, ils avaient laissé sciemment cette barrique pour que les soldats s'enivrent. Et en plus, ils étaient les seuls à avoir des armes. Donc, c'était très facile, après, de pousser les gens à l'eau.
Les soldats, eux, en fait, n'avaient pas d'armes.
Non. On avait pris, par mesure de sécurité, avant de les embarquer, voilà.
Donc, ce que lui, votre ancêtre, raconte, c'est qu'en fait, ils ont sciemment élaboré un projet de se débarrasser d'un certain nombre de passagers pour alléger le radeau, quoi.
Voilà, il y a eu une volonté, une organisation, et il y a eu 3 vagues successives de massacres. Donc la première annotation qui parle de ça, c'est « Quand on écrit l'histoire, il faut avoir le courage de dire la vérité. Monsieur Savigny déguise le commencement d'exécution du projet formé par un conseil dont il était l'âme, composé de 25 à 30 personnes, de se défaire de la plus grande partie des soldats afin d'alléger le radeau et diminuer le nombre des rations de vin à délivrer. Projet infâme à la vérité, mais auquel il est bien prouvé que nous devons notre salut. Aussi, au lieu de se poser à ce que les soldats s'emparassent d'un tonneau de vin, ils le leur livrèrent et il en résulta ce qu'il dit. Il n'était plus difficile alors de se défaire d'hommes gris, il ne fallait que les pousser pour les faire tomber à la mer. » Et je note, en fait, pas un seul officier n'a été tué, je dirais même blessé.
Ça, c'est souligné.
Et ça, c'est souligné, cette dernière phrase. C'est assez clair.
Ouais.
Il y a des gens qui ont estimé avoir plus le droit de vivre que d'autres, ça, c'est sûr et certain. Donc, du coup, dans ces 3 vagues successives de massacres, pendant la première vague, mon ancêtre avait perdu la raison. Il s'était jeté à la mer. Une vague avait soulevé le radeau presque à la perpendiculaire. Et il a été pris de terreur et il s'est jeté à l'eau. Et pris par un instinct de survie, il s'est raccroché à un bout de bois, accroché au radeau. Et il a attendu le jour pour qu'on le ramène sur le radeau. Et à la deuxième vague de massacre, on lui a demandé de faire un choix. Ben, je vais trouver la citation, parce que c'est peut-être le plus simple à dire avec ses mots à lui. Il y a un moment où il n'a plus eu le choix que de prendre parti, en fait. Alors, Jusqu'ici, je n'avais pris aucune part active à toutes ces horreurs, mais Monsieur Savigny me dit d'un ton fort menaçant « Griffon, si vous ne voulez pas être des nôtres, je vous ferai subir le sort des autres. » Alors il me présenta un sabre, m'invitant à leurs aides. Et dès lors, je devins leur complice, en sabrant et faisant tomber à la mer des malheureux qui, pour la plupart, ne faisaient aucune résistance. Moi, ce qui me bouleverse dans les notes de mon ancêtre, c'est vraiment sa sincérité de ton, en fait. Il avoue tout. Et en plus, on ne sait pas du tout à qui s'adressent ces notes. Il les a juste laissées derrière lui en mourant. Il est mort tardivement. Il avait 74 ans, donc on peut vraiment penser qu'il les a laissées en connaissance de cause. C'était pas destiné à être publié, et il avait aucun intérêt à mentir, en fait. Et voilà, il pointe vraiment ses moments de responsabilité.
Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à trouver celle que vous voulez.
Et il va encore plus loin dans ses aveux, en fait, à partir du troisième massacre.
Oui, le troisième massacre, c'est encore plus précis, parce qu'on sait exactement qui l'a tué. Le capitaine d'armes, Nicolas Jacquemart. Il l'a transpercé de son épée. Donc, c'est très précis, quoi, c'est sa décision.
Est-ce que vous pensez que c'est pour ça que votre famille, elle faisait barrage par rapport à la publication du livre ou de le remettre aux archives nationales?
Oui, c'est très clairement ces points-là. C'est les points liés au massacre. Et c'est très clair dans la correspondance de mon grand-père, qui parle de certaines notes ayant valeur de confession qu'il n'a pas envie de divulguer. Donc ça, c'est très net. Et à la fois, pour moi... On ne peut pas en faire l'économie, puisque c'est vraiment dans ces aveux-là qu'on sent la plus grande sincérité, quoi. Et que, voilà, mon ancêtre a vraiment voulu aller au bout de sa responsabilité. Et je ne crois pas qu'il faille amputer son témoignage. Je pense que c'est ce qui en fait toute la valeur, en fait. Je ne peux pas me dire qu'on laisse un témoignage comme ça en mourant à 74 ans si ce n'est pas pour que ça existe quelque part et qu'un jour les choses soient remises à leur place.
Pourtant, il a laissé aucune consigne.
Alors voilà, le problème, c'est ça. C'est qu'il a laissé aucune consigne. Et pour moi, c'est vraiment ça qui a cristallisé le tabou. C'est le fait d'avoir laissé ce livre et sans consigne. Et que, du coup, chacun hérite de cette culpabilité-là et de ce questionnement. Est-ce qu'on peut libérer cette parole? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que ces aveux si personnels, on peut les rendre publics? Le questionnement n'a jamais de fin et on ne sait jamais si on est légitime de le faire. Moi, ça a été la grande question de ma vie, c'est est-ce que j'ai la légitimité de faire ça vis-à-vis de la famille et vis-à-vis de lui, évidemment, bien sûr, vis-à-vis de sa mémoire. J'ai une conviction très personnelle que s'il a écrit ça, c'est pour qu'un jour on puisse entendre sa voix et que ça puisse rétablir... l'honneur des soldats, puis remettre les responsabilités à ceux auxquels il appartient, ouais. Et je pense aussi que c'est l'histoire collective et que ça nous appartient pas. Et qu'il fallait rendre ça à l'histoire collective.